les grandes femmes de l'histoire. L'émission qui présente les personnalités féminines qui ont marqué notre histoire. Des podcasts proposés par les élèves de 4e du collège Jules Verne de Vittel.
Cette émission, nous ferons la rencontre de grandes femmes qui ont marqué leur temps, comme Sappho de Lesbos et Hypatie dans l'Antiquité grecque. Au Moyen-Âge, nous retrouverons Trotula de Salerne, une grande chirurgienne. Nous retrouverons pour l'époque moderne Artemisia Gentileschi et Ada Lovelace. Et enfin, pour l'époque contemporaine, une américaine, Hedy Lamarr, et une française, Marie Marvin. Commençons tout de suite par Sappho de Lesbos, une poétesse grecque présentée par Clara et Noé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous savons que cette poétesse a vécu entre 630 avant Jésus-Christ et 580 avant Jésus-Christ. Pouvez-vous nous en dire plus sur son nom Lesbos ?
Les noms de famille n'étaient pas habituels à l'époque. Dans ce cas, pour Sappho, Lesbos est l'île grecque de sa naissance.
Elle est issue d'une famille de nobles. Alors quel métier exerçait-elle, elle et sa famille ?
Son frère était marchand. En revanche, Sappho était auteure, compositrice, poète lyrique, musicienne et professeure. Elle enseignait dans une école pour femmes de musique et de poésie qu'elle a ouverte. Elle est connue pour avoir exprimé dans ses écrits son attirance pour les femmes.
Sappho était connue pour sa poésie amoureuse lyrique. Pouvez-vous nous citer un extrait d'une de ses poésies les plus importantes, comme Ode à Aphrodite, datant du XVIe siècle avant Jésus-Christ ?
Toi dont le trône étincelle, ô immortelle Aphrodite, fille de Zeus, ourdisseuse de trames, je t'implore, ne laisse pas, ô souveraine, dégoût ou chagrin affliger mon âme.
Quelles étaient les conditions féminines à son époque ?
Les femmes étaient moins bien instruites que les hommes. Les filles ne recevaient que l'éducation religieuse. Elles n'avaient qu'un seul choix, le mariage.
Par qui et quand a-t-elle été découverte ?
Dirk Hobbing, le papyrologue qui a découvert les poèmes, indique qu'ils proviennent clairement du premier livre de Sappho.
Avons-nous des traces archéologiques de son existence ?
Nous avons retrouvé du papyrus sur lequel est inscrit une poésie qu'elle a écrite ainsi que des fragments de ses os. Bien sûr, toutes les informations citées ont été prouvées par ces papyrus.
Connaissiez-vous cette femme avant ?
Non, je ne connaissais pas Sappho, mais je trouve bien ce qu'elle a fait d'ouvrir une école pour les femmes en apprenant ses connaissances aux autres.
Non, mais je trouve que c'est bien qu'elle ait eu le courage de se libérer dans ses écrits en dévoilant son homosexualité.
Voilà, c'était le reportage de Sappho de Lesbos.
Nous restons dans l'Antiquité et nous partons à Alexandrie en Égypte. Thibaut, Clémentine et Victoire vont vous faire découvrir la mathématicienne Hypatie.
Bonjour, je suis Victoire, accompagnée de la journaliste Clémentine et de l'expert Thibaut. Nous allons vous parler de la talentueuse Hypatie.
Premièrement, cette femme a marqué l'histoire grâce à ses connaissances en mathématiques et en physique. Elle est née entre 355 et 370 après Jésus-Christ et est décédée en 419 après Jésus-Christ par des fanatiques chrétiens à Alexandrie en Égypte. Pendant l'Antiquité, en Égypte, les femmes avaient plus de droits qu'en Grèce. Elles pouvaient donc travailler, divorcer et même tenir leurs propres comptes financiers. Hypatie est issue d'un milieu intellectuel bourgeois. En effet, sa mère est aussi mathématicienne et son père, Théon d'Alexandrie, est philosophe et astronome.
D'autre part, Hypatie est une femme mathématicienne et philosophe qui donne des conférences publiques. Elle est brillante, vertueuse et pédagogue. Cette femme a été commentatrice. À quoi consiste le métier pendant la Grèce antique, Clémentine ?
Ce métier consiste à rédiger des écrits visant à expliquer et à éclaircir des œuvres. Cela sert aussi à donner son avis et faire des commentaires dessus. Elle a commenté les œuvres d'Aristote et de Platon. Elle a ensuite étudié l'astronomie de Ptolémée et a été professeure de mathématiques et de philosophie.
Elle aurait participé à l'édition des canons astronomiques de Ptolémée.
Mais en quoi consistent les canons astronomiques ?
L'édition des canons est la liste des rois qui permet de dater les événements astronomiques tels que les éclipses. Hypatie est connue grâce à sa mort tragique. Elle est devenue le symbole de la liberté intellectuelle. Toutes ses œuvres et ses textes ont été perdus dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie en 642 après Jésus-Christ. À cause de Ibn Kefti, Ibn al-Kefti est un historien arabe né à Kefti en Égypte en 1172 dans le calendrier arabe et est mort en 1248. Il reste peu de traces de cette femme. On a retrouvé la correspondance de Synésios, qui est conservée à la BNF, Bibliothèque Nationale de France. Elle comprend 159 lettres, dont 7 envoyé à Hypatie. Synésios est né en 360 après Jésus-Christ à Cyrène. Elle a pu étudier la philosophie et la science à Alexandrie. Synésios est le disciple de Hypatie.
Thibaut, est-ce que tu connaissais cette femme et qu'est-ce qui t'a plus marqué dans son histoire ?
Oui, je connaissais rapidement cette femme avant de faire mes recherches, mais l'information qui m'a le plus troublée, c'est que tout a brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et Victoire, tu en as pensé quoi de cette femme incroyable ?
Je connaissais Hypatie depuis la primaire, mais je n'avais jamais approfondi la recherche. L'information qui m'a le plus marquée, c'est que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé et qu'on a perdu la plupart de ses œuvres. Donc nous avons beaucoup moins de traces de cette talentueuse femme. Et Clémentine, as-tu des avis à nous partager ?
Pour ma part, je ne connaissais pas Hypatie avant de mener des recherches. Cette femme s'est battue pour faire ce qu'elle aimait, pour obtenir des libertés, accomplir de grandes choses, comme ses œuvres et ses textes, malheureusement perdus dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Elle a pu participer à l'édition des canons, être professeure de mathématiques et de philosophie. Pour moi, cette femme est remarquable. Pour poursuivre, nous avons utilisé Wikipédia, Wikidia, Google et le site de l'Éducation nationale.
Merci de nous avoir écoutés, c'était Thibaut, Victoire et Clémentine.
En plein cœur du Moyen-Âge, nous allons faire la rencontre de Trotula de Salerne, présentée par Maëlle, Faustine et Gabriel.
Bonjour à tous, je suis Gabriel, votre journaliste du jour, et je suis en compagnie de Maëlle, Faustine, nos historiennes. Nous allons vous parler de Trotula de Salerne. On va vous parler de sa vie personnelle, puis de ses métiers. Pour commencer, quand est née Trotula de Salerne, puis quand est-elle décédée ?
Trotula de Salerne, appelée aussi Trotula de Ruggiero, est née en 1050 à Salerne en Italie, d'où son nom Salerne. Elle est décédée en 1097.
Quel est son statut social ?
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Trotula de Salerne. Elle aurait appartenu à la famille Frugando ou Ruggiero. Elle était mariée à Jean Platerius l'Ancien. Elle est issue d'un milieu riche et intellectuel.
Quelle fonction a-t-elle exercée ?
Trotula de Salerne a étudié en faculté de médecine. Elle est devenue ensuite une spécialiste en gynécologie, rédactrice d'ouvrages de médecine, écrivant plusieurs ouvrages sur la médecine des femmes. Elle a été aussi médecin, chirurgienne et professeure d'université à Salerne.
Quelles sont les découvertes importantes que Trotula de Salerne ?
Elle a écrit 126 ouvrages traitant la médecine des femmes comme traitement pour les femmes. Elle décrit dans cet ouvrage les problèmes que peuvent avoir les femmes à son époque, comme des problèmes de santé liés aux règles et lors de l'accouchement.
Quelles étaient les conditions de vie des femmes à son époque ?
Les femmes étaient considérées comme des personnes mineures placées sous la coupe d'un mari ou d'un père. La femme était avant tout une épouse et une mère et devait charmer leur entourage par leur beauté et leur esprit. C'est donc assez incroyable que Trotula de Salerne ait pu entrer en faculté de médecine car les études étaient réservées aux hommes.
Est-elle connue à son époque et encore aujourd'hui ?
Non, elle n'était pas très connue à son époque car on ne s'intéressait pas trop aux maladies des femmes. Elle a été reconnue au XIVe siècle, en 1776, 1837 et enfin en 1985, car les femmes n'étaient que des épouses à rester à la maison, s'occupant des enfants et faisant la cuisine. Mais nous avons peu d'informations. De qui est-ce qui aurait pu la reconnaître ?
Nous savons qu'il nous reste des traces archéologiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur cela ?
Il nous reste plusieurs séries de textes attribués à Trotula. Il existe 126 manuscrits en plusieurs versions selon les copistes au cours des siècles. Aujourd'hui encore, les médecins se servent de ces textes en les étudiant et utilisant. Les ouvrages sont conservés à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, située à Paris.
Je vous remercie, Maëlle et Faucine, pour vos informations très intéressantes sur Trotula de Salerne. Je ne connaissais pas Trotula de Salerne, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur cette femme.
Pour ma part, je ne connaissais pas Trotula de Salerne, mais j'ai pu apprendre beaucoup sur elle et surtout que grâce à elle, les femmes au Xe siècle avaient réussi à devenir gynécologues malgré les remarques qu'on a pu lui dire en tant que femme.
J'avais déjà entendu parler de Trotula de Salerne, mais j'ai appris beaucoup de choses sur elle que je ne connaissais pas. Cette femme est brillante. Elle a aidé beaucoup de femmes. Je pense qu'elle mérite d'être plus connue.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
En plein XVIIe siècle italien, Lana et Tiffen vont brosser le portrait d'une grande peintre, Artemisia Gentileschi.
Bonjour, nous sommes Lana et Tiffen. Nous allons vous raconter la vie d'une artiste peu connue, mais talentueuse.
Comment s'appelle-t-elle ?
Elle s'appelle Artemisia Lomi Gentileschi. Elle est née le 8 juillet 1593 et décédée vers 1656.
Elle faisait partie d'une famille relativement aisée. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, elle faisait partie d'une famille bourgeoise italienne et son père était un grand peintre italien.
A-t-elle suivi le même chemin que son père ?
Oui, elle est devenue peintre. Elle a fait son apprentissage artistique dans l'atelier de son père où elle apprend le dessin. Elle ne pouvait pas aller aux Beaux-Arts car cette école était réservée aux hommes. Son père lui donne donc un précepteur privé, le peintre Agostino Tosi, qui la violera en 1611.
A-t-elle fait une œuvre importante et connue dans sa carrière ?
Oui, Judith décapitant Holoferne est le tableau le plus connu d'Artemisia Gentileschi. Ce tableau est un épisode de la Bible représentant Judith et sa servante décapitant Holoferne ayant agressé Judith. Ce tableau lui est cher car Judith est représentée sous les traits d'Artemisia qui s'est faite violer étant jeune et qui déverse sa colère sur cet homme. Ce tableau a été réalisé de 1614 à 1620.
Vous venez de me dire qu'elle a été violée. Son violeur a-t-il été puni ?
Non, son violeur, qui était son mentor, c'est-à-dire son maître, n'a pas été puni. C'est donc cette rage qui a poussé Artemisia à faire ce tableau.
Quelles sont les conditions féminines à son époque ?
À l'époque, les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. Mais Artemisia prouve qu'elle est capable de se mesurer aux artistes les plus réputés de sa génération, qui sont des hommes, et qu'elle peut les dépasser en peignant avec une précision exceptionnelle.
Et est-elle connue à son époque ?
Elle connaît un succès flatteur vers 1614 et entretient de bons rapports avec les artistes les plus réputés de son temps.
Si elle était connue, cela voudrait dire que nous avons retrouvé des traces archéologiques ?
Oui, nous avons découvert beaucoup de ses tableaux. Suzanne et les Villard, fait en 1610, Judith décapitant Holoferne en 1618, et bien d'autres. Mais nous avons peu de ressources sur elle. Elle est bien mieux connue aujourd'hui grâce à l'œuvre de Judith Chicago, The Dinner Party, mais aussi grâce au film Artemisia d'Agnès Mahalay, ou encore du manga Arte de Keio Kubo.
Suite à toutes ces informations, je trouve que la vie de cette femme est passionnante malgré que peu de personnes la connaissent. En effet, elle a réussi à vivre de sa passion même si le monde de l'art était surtout exclusivement masculin à cette époque.
Personnellement, je la connaissais déjà grâce au manga Arte, inspiré de la vie de l'artiste. Mais le manga n'est qu'une adaptation, j'ai donc appris plus de détails sur sa vie et cela m'a beaucoup plu. J'ai vu ses tableaux les plus célèbres et j'ai appris qui elle était vraiment. J'ai été choquée d'apprendre que son mentor a été principalement connu pour avoir violé Artemisia. Merci de nous avoir écoutés.
Vous écoutez le podcast Les Grandes Femmes de l'Histoire. Découvrez ou redécouvrez les histoires de ces femmes célèbres ou moins connues qui ont marqué l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Sportives, écrivaines, poétesses, musiciennes, scientifiques, politiciennes, femmes de pouvoir. Laissez-vous conter le destin incroyable de ces femmes qui ont su s'imposer envers et contre tous.
Titouan, Paul, Sarah et Stéphane vous feront plonger au cœur du 19e siècle et de la vie d'une informaticienne, Ada Lovelace.
Bonjour, je suis Paul, accompagné de Titouan.
Bonjour.
Accompagné de Sarah.
Bonjour.
Et de Brian.
Bonjour. Bonjour.
Nous allons vous parler de Ada Lovelace. Qui est Ada Lovelace, Byron, et d'où vient-elle ?
Ada Lovelace, de son vrai nom Augusta Ada Byron, est née le 10 décembre 1815 à Londres. Et est décédée le 27 novembre 1852 à Londres, à l'âge de 37 ans. Elle est comtesse, issue de la famille d'un poète britannique, Lord Byron, et d'une mère, Anne Isabella Milbanke, poétesse, écrivaine et mathématicienne. À 17 ans, elle rencontre Charles Babbage, mathématicien et professeur à l'université de Cambridge. Ada Lovelace est fascinée par les machines qu'il conçoit. Elle y consacrera une grande partie de sa vie très courte.
Que faisait-elle dans la vie à part programmeuse informatique ?
Elle était inventrice. Elle a notamment inventé le premier véritable programme informatique sur l'ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage. Elle est aussi traductrice. Elle a traduit un article d'un ingénieur italien, Federico Luigi Menebrea, consacré aux machines à calculer. Mais aussi écrivaine, elle a écrit 4 livres comme Fliologie. Elle pratiquait d'autres métiers comme mathématicienne, poétesse et ingénieure.
Était-elle connue autre part que dans les pays anglo-saxons ?
Oui, elle était connue aussi en Allemagne.
Avons-nous des traces archéologiques de son existence ou de ses œuvres ?
Nous avons des traces archéologiques de son existence. Elle fut enterrée à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Uncacal à Newstead Abbey.
Avez-vous des anecdotes sur elle ?
En 1978, le nom Ada fut donné en son hommage à l'un de ses langage informatique élaboré aux États-Unis en 1977 et 1983.
Connaissez-vous cette femme avant et qu'avez-vous retenu sur elle?
Non, je ne la connaissais pas avant. Ce que j'ai connu sur elle, c'est que c'est la première femme à avoir créé le véritable système informatique.
Non, je ne la connaissais pas avant, mais j'ai retenu qu'elle avait fait le premier véritable programme informatique.
Je ne la connaissais pas, et maintenant, je trouve que c'est impressionnant qu'elle ait pu avoir accès à la science en étant une femme pendant son époque.
En plein âge d'or hollywoodien, Eddie Lamar aurait jeté les bases du système Wi-Fi. C'est en tout cas ce que nous expliqueront Joanne, Océane et Chloé.
Bonjour, je m'appelle Joanne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Eddie Lamar, de son vrai nom, Hedwig Kiesler. Avec Chloé et Océane.
Bonjour.
Bonjour.
Je laisse la parole à Océane qui va nous parler un peu plus précisément d'elle.
Hedwig Kiesler est née le 9 novembre 1914 et est décédée le 19 janvier 2000. Elle est issue d'une grande famille de bourgeois juifs originaires de Budapest en Hongrie.
Quel était son métier et sa fonction?
D'après Wikipédia, elle est actrice productrice de cinéma très connue à Hollywood. Mais surtout, c'était une grande inventrice étant autrichienne. Elle est naturalisée américaine.
Outre sa carrière au cinéma, elle a marqué l'histoire scientifique en inventant, avec le compositeur Georges Anteuil, un moyen de coder les transmissions, c'est ça?
Oui, autrement dit, elle a inventé le Wi-Fi, qui est plutôt essentiel aujourd'hui et dans le monde entier.
Était-elle connue à son époque, et pourquoi?
Oui, elle est reconnue pour son audacieuse carrière cinématographique, mais surtout pour avoir inventé ce système de codage de transmission d'après Futura Science.
En parlant de son époque, quelles étaient les conditions féminines?
Elles restaient confinées à la maison en s'occupant de leurs enfants et les femmes travaillaient. Elles étaient très mal vues auprès de la société, car cela signifiait qu'elles étaient plus pauvres.
Bien, revenons sur Eddie Lamar. Avons-nous des traces archéologiques de son existence ou de ses inventions?
Oui, évidemment, le Wi-Fi et plusieurs films dans lesquels elle a joué, comme Exact ou Samson et Dahlia, qui est son plus grand succès.
Alors Océane, que penses-tu de Eddie Lamar?
Je ne la connaissais pas du tout, mais je pense qu'elle a réalisé un grand exploit, sachant qu'à son époque, se faire reconnaître en tant que femme était très compliqué dans le domaine scientifique. Et toi Chloé, qu'en penses-tu?
Personnellement, je ne la connaissais pas, mais je l'ai connue grâce à mes recherches et elle a créé une invention qui nous sert tous les jours. Je trouve ça génial.
Merci de nous avoir écoutés en espérant que vous en avez appris plus sur elle. Au revoir.
Nous terminons avec Marie Marvin, aviatrice et infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Clara et Lilou vont nous raconter le parcours de cette héroïne locale.
Bonjour, nous sommes Clara et Lilou, élèves de 4e 4. Nous allons vous parler de Marie Marvin. Quelle est sa date de naissance? Quand est-elle morte?
Elle est née le 20 février 1875 et morte le 14 décembre 1963. À l'époque, elle avait même un surnom, la fiancée du danger. Elle passe son temps libre à rédiger et publier des poèmes. Elle refuse de se marier ou de devenir mère.
On sait que son statut social était plutôt aisé. Pouvez-vous nous en dire plus?
En effet, son statut social était plutôt aisé, son père était receveur de poste et sa mère, femme au foyer.
Son métier était infirmière, est-ce qu'elle a exercé d'autres métiers au cours de sa vie?
Oui, elle était infirmière diplômée et reporter de guerre. Elle a lancé le concept de l'aviation sanitaire. Elle devient infirmière pour l'armée de l'air lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une pionnière de l'aviation, inventrice, sportive, alpiniste et journaliste française. Elle étudie le droit et la médecine.
Elle a réalisé des exploits dans son domaine. Qu'en sait-on précisément dessus?
On sait qu'elle a réalisé des exploits dans des disciplines sportives comme le cyclisme, le tir sportif et la natation, notamment en hiver. Elle est la première femme à terminer le Tour de France en 1908 et c'est l'une des seules femmes à traverser la Manche vers l'Angleterre en 1909.
Les conditions féminines de son époque sont-elles compliquées? A-t-on des informations supplémentaires?
Effectivement, les conditions féminines sont compliquées car les femmes se révoltent de plus en plus face aux pressions qu'elles subissent. De nombreuses femmes se battent pour l'accès à l'éducation des filles et pour le droit de vote. De plus en plus de femmes se libèrent grâce à des mouvements féministes.
Nous avons retrouvé une trace archéologique de son existence. Pouvez-vous nous en donner plus de détails?
Alors oui, nous avons retrouvé une photo d'elle, la montrant sportive. Cette photo est disponible sur Gallica.
Où avez-vous trouvé toutes ces informations?
On a trouvé ces informations sur Wikipédia et dans le livre 100 grandes femmes de l'histoire.
Pour ma part, je ne connaissais pas cette femme avant. On l'a découverte lors de ses recherches. On a appris que c'était la première femme à voler en avion. Et vous, vous en pensez quoi?
Personnellement, je ne la connaissais pas non plus. C'est une femme importante car elle a réalisé énormément de choses bien, dont la première femme à avoir réussi à finir le Tour de France en 1908.
On vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt.
Si ces podcasts vous ont plu, n'hésitez pas à les partager et à en parler autour de vous. Les élèves de 4e se joignent à moi pour remercier particulièrement M. Gavinier, professeur documentaliste du collège, qui a été essentiel dans la conception et la réalisation de ce projet.
Les grandes femmes de l'histoire. L'émission qui présente les personnalités féminines qui ont marqué notre histoire. Des podcasts proposés par les élèves de 4e du collège Jules Verne de Vittel.